Terre Vue.
Okay, du börjar.
L'interview du jour.
Maxime Zucca, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici pour un entretien qui vient de se dérouler donc, au sein de ces rencontres avec ce titre « S'engager et lutter pour un avenir désirable ». Vous-même êtes ornithologue, vous avez un ouvrage aussi disponible dans cette librairie des rencontres qui s'intitule « La migration des oiseaux, comprendre les voyageurs du ciel ». Alors peut-être cette question avant tout, quelle est cette quête de cette compréhension ?
Quête de compréhension, moi je suis donc ornithologue effectivement depuis même mon plus jeune âge et évidemment fasciné par les oiseaux, la beauté des oiseaux, et c'est d'ailleurs ce qui fait le lien avec mon engagement militant, hein. Je pense que tout le monde, on a envie de se battre pour ce qu'on trouve beau et le défendre et continuer de le voir exister. Et la migration en particulier, bah, c'est un phénomène fascinant, et je me suis rendu compte dans les années 2008-2009 par là que finalement nous les ornithos, on connaissait assez peu les nombreuses découvertes scientifiques qui avaient eu lieu en matière de migration. On observait les oiseaux, mais sans forcément faire le lien avec la recherche, en tout cas pour les amateurs. Et donc j'ai compilé toutes les connaissances scientifiques disponibles pour faire ce livre et que j'ai mis à jour régulièrement depuis. Et là, vous tenez entre les mains l'édition de 2021, qui est une édition encore revue et augmentée. Puis je vais en refaire une l'an prochain ou dans 2 ans, certainement. Voilà.
Alors, pourquoi cet engagement et lutter pour un avenir désirable, quel est le maître mot pour vous dans ce combat ?
Si vous voulez, je pense qu'il y a des millions de bonnes raisons de s'engager. Là, si je prends par exemple, comment parlent les oiseaux migrateurs ? Ça fait partie des groupes d'espèces qui sont les plus menacées parce que elles ont à la fois la contrainte, les modifications climatiques qui leur tombent dessus. C'est souvent des espèces insectivores qui migrent parce que les oiseaux migrent pour aller trouver de la nourriture, et c'est beaucoup les insectes qui manquent en hiver. Donc c'est celles qui subissent les pesticides. C'est aussi celles qui subissent les plus grandes dégradations d'habitat. Il y a toute une complexité dans la conservation et la sauvegarde des oiseaux migrateurs. On pourrait notamment parler de l'hirondelle, qui est un peu la plus emblématique et qui est celle qui se casse la figure le plus dans nos campagnes, qui en fait aussi un très bon totem presque de lutte. Et le lien qu'on a fait juste avant à la table ronde, c'est que moi j'ai présenté une lutte naturaliste qui s'appelle les naturalistes des terres, donc qui sont un collectif qui essaye de mettre le pied à l'étrier des ornithologues, des botanistes, des herpétologues au monde militant, et notamment de les inviter à rejoindre les luttes existantes et de les peupler de tous les êtres vivants qui les entourent, en soit facilitant la lutte juridique à travers les espèces protégées, mais aussi et beaucoup en travaillant avec les personnes de la lutte, mais aussi avec les gens qui habitent sur place, à la connaissance et à retisser les liens avec notre environnement immédiat, parce que ça donne du coup encore plus envie de défendre un territoire quand on le défend non seulement pour soi, mais en plus pour tous les êtres vivants non humains qui l'habitent.
Ces naturalistes des terres, c'est un regroupement entre autres de scientifiques, de juristes et aussi de citoyens qui tiennent à la préservation de la biodiversité. Vous êtes aussi un apport pour des luttes au sein de territoires pour préserver justement cette biodiversité. Et donc il y a un adversaire primordial face à vous, quel est-il ?
L'adversaire primordial, c'est le capitalisme, j'ai envie de dire. Le capitalisme, en tout cas, extrêmement excessif et dérégulé dans lequel on vit. Et en particulier, nous, on est assez actifs sur les sujets des luttes contre les grands projets d'aménagement, mais pas exclusivement. Mais il se trouve que c'est souvent ce type de projet qui permet une territorialisation des luttes et du coup de la lutte concrète derrière. Donc là, contre ces projets, on va venir aider, par exemple, les luttes à trouver des espèces protégées qui peuvent nourrir leur lutte juridique. Mais on va aussi parfois carrément essayer de faire venir des espèces protégées sans déplacer des espèces elles-mêmes, mais en créant des écosystèmes, en creusant une mare, en plaçant plein de nichoirs pour des chouettes, pour des faucons, pour des muscardins, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'espèces protégées présentes et que le projet soit de plus en plus compliqué pour le porteur, quoi.
On peut constater que les luttes sont de plus en plus restrictives ou du moins sont de plus en plus réprimées.
Réprimées, oui, tout à fait. Bah là, c'est vraiment un vrai sujet. Tant les luttes que d'ailleurs aussi les scientifiques, on l'a vu encore là, Evelyne Rae, puis aussi les institutions avec l'Office français de la biodiversité qui se fait aussi bien attaquer par la coordination rurale que par le Premier ministre. Donc là, on est dans un moment extrêmement inquiétant de surenchère dans policière d'agression contre les militants écologistes, avec d'un côté la tentation d'essayer de nous faire passer pour des éco-terroristes et de l'autre une tendance vraiment qui s'accélère de décrédibiliser la parole scientifique dès lors qu'elle sort de son laboratoire en la qualifiant de militante et du coup potentiellement d'engagée, donc de perte de neutralité scientifique, comme si la neutralité scientifique existait. La science n'est pas neutre. On choisit ce qu'on cherche, on choisit les directions vers lesquelles on veut aller. L'objectivité entre guillemets de la science, c'est que ces méthodes sont reproductibles et peuvent être validées et vérifiées par d'autres, et qu'on n'est pas sur de l'opinion. Mais par contre, pour parler de neutralité scientifique, ça n'a aucun sens. Mais en ce moment, il y a cette vraie tendance d'essayer de décrédibiliser les écologistes scientifiques également, et pas uniquement les écologistes de terrain naturalistes.
Il y a un site internet des naturalistes des terres. Il existe une carte qui représente aussi tout ce réseau.
C'est important, effectivement, donc d'aller, si jamais vous cherchez des naturalistes pour... ils seront pas toujours disponibles. C'est pas une prestation de service. C'est des militants qui sont plus ou moins disponibles et qui lisent plus ou moins leur mail en plus. Mais il y a une carte sur le site Naturaliste des Terres, naturalistesdesterres.com/gogocarto, quelque chose comme ça, qui vous permet de voir quels sont les naturalistes qui sont inscrits près de chez vous et qui peuvent du coup venir en aide, en appui. Mais voilà, l'idée, c'est pas de vous emmener en promenade pour faire plaisir, c'est vraiment de venir sur une lutte apporter un soutien nécessaire. Parce qu'on a tous des activités pro à côté souvent, donc voilà, on a un temps limité. Mais l'idée, c'est aussi à la fois de nourrir les luttes, mais aussi que les naturalistes eux-mêmes se politisent ou se repolitisent et sortent de leur neutralité, parfois quand même souhaitée par certaines, et s'engagent vers quelque chose d'un peu plus militant.
Ces scientifiques et juristes œuvrent en permanence pour ces naturalistes, ou alors en parallèle, ils ont leur propre activité, mais qui permettent quand même de mieux enseigner aussi à ces combats.
Alors, Naturaliste des Terres, c'est strictement bénévole et marginal dans l'activité des gens qui le peuplent. Donc après, les métiers sont très variés. On va avoir aussi bien des salariés d'associations, de bureaux d'études, que des gens qui font un tout autre métier, mais qui ont des savoirs naturalistes acquis pour des raisons diverses et variées, qui peuvent être des savoirs de type identification d'espèces, mais aussi des savoirs artistiques, des savoirs plus anthropologiques, qui vont aussi faire les liens entre les mondes militants traditionnels, mais aussi avec d'autres personnes, d'autres types de personnes, comme des chasseurs, parfois des agriculteurs. Bref, c'est aussi ça. On essaye de recréer un tissu de lutte et une convergence des luttes. Et en tout cas, c'est extrêmement pluriel et varié. Et d'ailleurs, je voudrais pas que ça passe comme quelque chose de sachant et d'élitiste. Chacune peut, en théorie, rejoindre les naturalistes des terres et s'impliquer auprès de nous.
Il y a aussi un mot qui m'interrogeait, c'est donc pour pouvoir se réinventer et donner une portée politique de ce que vous revendiquez, il y aurait une dimension nécessairement anti-extractiviste. Alors ce terme, que signifie-t-il ?
Anti-extractiviste, c'est arrêter de voir notre planète comme simplement une ressource naturelle inépuisable et surtout qui aurait été déposée là par un dieu tout-puissant ou n'importe quelle entité antérieure à la simple destination des humains pour leur confort. Et donc ce qu'on appelle extractivisme, c'est aussi bien extraire, ça vient de là, extraire les minerais, qu'ils soient fossiles ou qu'ils soient minéraux, à des fins de construction, à des fins d'énergie, que aussi d'extraire la photosynthèse. Et il y a quand même quelque chose, on le sait peu, mais dans l'extractivisme, il y a cet accaparement de la photosynthèse par les humains à des fins de l'agriculture. et quand en fait des surfaces agricoles sont plus que dédiées à l'humain, dans lesquelles on ne laisse pas du tout d'autres formes de vie s'exprimer parce qu'on les réprime à coups de pesticides, à coups d'herbicides divers et variés, et qu'on veut uniquement s'accaparer la lumière du soleil pour faire pousser nos plantes, pour nourrir les humains ou les animaux d'élevage qu'on nourrit avec ça, et bien ça c'est une autre forme d'extractivisme contre laquelle on lutte, et c'est pour ça que le sujet des transitions agricoles elle nous anime beaucoup au sein des naturalistes des terres.
Pour répercuter votre démarche des naturalistes, sur quels moyens vous appuyez-vous médiatiquement ou aussi au niveau des citoyens? Est-ce qu'il y a des organisations de rencontres de temps à autre?
Alors les naturalistes des terres, nous on se rencontre régulièrement, il y a une rencontre annuelle. Après, c'est effectivement les médias qui sont un bon moyen par des tribunes. On a notamment fait une tribune dans Les Terrestres et Reporters en 2022 quand nous nous sommes constitués. On continue d'en faire parfois, probablement pas assez. Mais sinon, on n'a pas forcément vocation à entrer non plus dans toute la chaîne médiatique habituelle. Et sinon, on fait plutôt confiance au bouche à oreille. Je pense que c'est la manière dont on est la plus connue maintenant, c'est par l'action en fait. C'est parce qu'on a fait des choses utiles. Des gens se sont rendus compte que c'était intéressant de pouvoir faire appel à nous, et nous en même temps on se nourrit énormément de ce qui se passe dans les mondes militants existants, donc ça fonctionne bien comme ça.
Et puis vous êtes relativement dans l'action?
Oui, on est relativement dans l'action, mais je vous dis, ça peut être une action simplement d'ordre scientifique, d'aller faire des contre-expertises par rapport à ce que les porteurs de projets avaient prétendu trouver comme espèces protégées, avec souvent des degrés d'inventaire qui ne sont pas suffisants pour déterminer toutes les espèces présentes. Parfois si, y en a qui font un bon travail, il y a des bureaux d'études qui font du très bon travail, mais donc ça c'est un mode d'action qu'on a, et l'autre mode d'action ça va être, je vous disais, de repeupler les luttes qui sont souvent parfois très anthropocentrées, et nous on essaye d'amener une dimension écocentrée.
Pendant la conférence, vous leviez justement ce problème de cette consultation faite par des porteurs de projets auprès de scientifiques pour avaliser le projet et peut-être donner une estimation de l'impact sur la biodiversité, et que ça vous semblait pénible.
Y a une perversion là-dedans, parce qu'en fait les jeunes naturalistes qui sortent des études et qui veulent ou écologues, et qui veulent travailler, ils ont souvent comme principale offre d'emploi des bureaux d'études en écologie qui vont les embaucher pour aller faire de l'expertise naturaliste. Alors parfois pour des choses très intéressantes, mais parfois aussi du coup, et même souvent, pour des études d'impact environnemental. Heureusement qu'elles existent, ces études d'impact environnemental. Néanmoins, le système de l'expertise actuelle en France fait que cette expertise n'est pas indépendante. Elle est rémunérée par le porteur de projet, ce qui peut s'entendre, mais sans un organisme qui fasse un peu tampon. Donc en fait, il y a un lien direct entre le porteur de projet et son bureau d'études, et le bureau d'études lui rend des comptes. Et donc il a tout intérêt, s'il veut garder ses clients pour la suite, à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop... Que en tout cas le projet puisse se faire, et donc à accompagner un déploiement du projet qui prenne bien en compte au maximum les espèces protégées avec le plus d'enjeux, mais qui va quand même in fine permettre au projet de route par exemple d'avoir lieu. Et donc beaucoup de naturalistes se retrouvent au début enthousiastes, se disant je vais travailler en faisant ma passion, en allant compter, identifier les insectes, les oiseaux, les amphibiens, et se retrouvent sans trop s'en être rendu compte, d'une certaine manière, complices de grands projets d'aménagement qu'ils auront simplement sur lesquels ils auront permis de mettre une belle peinture verte et deux, trois mesures, effectivement, qui l'améliorent, mais globalement, qui ne résolvent pas la destruction de l'habitat.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5
101.7
FM.
La carte, justement, elle occupe plus ou moins la France, déjà, mais est-ce qu'elle s'étend aussi au-delà?
Alors, c'est francophone, donc forcément, oui, on a eu quelques inscriptions, je crois, en Afrique ou ailleurs en Europe, mais c'est un peu marginal.
Aussi.
En Belgique, ouais, tout à fait. La Belgique, je crois pas que ce soit encore très... Ils nous connaissent. Ils ont d'autres luttes naturalistes. Il y a eu des luttes très naturalistes récemment, dans un marais, notamment, qui est menacé par du photovoltaïque, je crois. Bref, donc ils ont en Belgique aussi leur plutôt pas l'équivalent des naturalistes des terres, parce que c'est pas formalisés, mais des naturalistes en lutte. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire, ce qui est très important, c'est que les naturalistes des terres ont trouvé, j'aurais dû le dire tout à l'heure, ont quand même trouvé leur origine dans la lutte de Notre-Dame-des-Landes. Et là-bas, au sein de Notre-Dame-des-Landes, s'est déconstitué un petit groupe, un petit réseau qui s'appelait les naturalistes en lutte et qui ont, eux, permis de retarder par des procédures judiciaires aussi le projet d'aéroport. Et en fait, c'est toute cette convergence de tactiques qui permet à la fin un projet potentiellement d'exploser parce que bah, il est retardé et il est plus viable économiquement.
Est-ce que pour pouvoir continuer à agir hein, malgré ces répressions, est-ce que vous êtes aussi en réflexion sur la constitution de moyens d'action et est-ce qu'il y a une évolution sans cesse au sein de votre de cette association si on...
Alors, c'est pas une association, un collectif.
C'est un collectif.
Bah oui, ça réfléchit beaucoup. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'idée de creuser des mares pour faire venir des espèces protégées. Il y a aussi même parfois l'idée de poser des nichoirs. Bon, après, la réflexion, c'est dans quelle mesure on utilise presque le vivant de l'arrivée d'espèces sauvages pour faire bouclier à des projets qui vont quand même avoir lieu et donc potentiellement occasionner leur destruction. Ça, c'est un vrai paradigme, un vrai paradoxe éthique qu'on peut avoir. Et sinon, aussi des actions un peu innovantes. Là, au village de l'eau, cet été, à Sainte-Soline, il y a eu l'idée de lâcher avec des cerfs-volants en forme de papillons des bombes à une lentille d'eau dans la bassine en espérant, en copiant un peu ce qui avait été fait en Amérique du Sud avec les amarantes sur les grandes cultures de maïs transgénique. Et là, en espérant boucher les bassines et en tout cas... Montrer une tentative de résistance par le vivant. Donc ça fait partie des réflexions de lutte. Et il y en a plein d'autres, mais on est toujours aussi vigilant sur le fait de ne pas s'attaquer à une personne, parce que souvent, c'est des propriétaires qui sont impactés avec une inondation. Si on bouge des drains, ça va avoir un impact sur potentiellement une ferme, même si c'est une ferme intensive. Qui utilisent des pesticides, on n'a pas non plus envie de s'attaquer trop à des individus, c'est pas notre but, c'est le système, donc voilà, ça rend parfois des actions difficiles.
Il y avait aussi, à un moment donné, vous exprimiez cette difficulté peut-être aussi dans les échanges, il y avait peut-être, un moyen de... Il y a une certaine intransigeance au sein de certains activistes. Et donc, il faut savoir jongler aussi avec toutes les facettes qui puissent exister.
Tout à fait. Je pense que, comme dans tous les domaines, on a besoin de gens qui ont des positions très droites, un peu parfois sans concession, et d'autres qui viennent d'autres mondes et qui découvrent, qui apprennent, qui sont pas encore aguerris vis-à-vis des modes d'action militants, il peut y avoir des bourdes sémantiques, il peut y avoir une méconnaissance de l'histoire des mouvements, chacun vient avec sa culture et aussi ses propres, ce qui charrie de son éducation, de toutes les petites oppressions systémiques qu'on trimballe avec nous parce qu'on a été éduqué comme un garçon, comme un blanc, comme un riche ou j'en sais rien, ou comme un urbain, comme un rural, bref. Donc tout ça, les gens peuvent amener ça et peuvent parfois se trouver dans une position délicate dans des milieux militants qui peuvent être assez intransigeants, parfois à juste titre, pas toujours, sur ça. Et donc, on a aussi comme vocation d'être une marche, un endroit où on fait le lien entre les mondes militants plus radicaux et les mondes scientifiques ou les mondes du public amoureux de la nature, mais pas forcément aguerri à ces milieux-là. Et c'est pas facile, honnêtement.
Il y a une question encore par rapport à ces scientifiques engagés dans ce collectif. Est-ce qu'il y a une très grande diversité d'approches scientifiques qui correspondent un peu à ces attentes, à ce combat ?
Oui, en tout cas, typiquement dans les naturalistes de terre, on n'est pas strictement limité, restreint aux naturalistes. Hein. On a envie d'attirer, et on le fait, d'attirer... D'ailleurs, on travaille pas mal, on interagit beaucoup avec scientifiques en rébellion. On a envie d'attirer aussi des anthropologues qui nous éclairent, qui nous font comprendre aussi notre lutte et nos propres biais de lutte. Voilà. Donc on a vraiment volonté de bosser avec d'autres échelons, d'autres disciplines entre guillemets scientifiques que celles des écologues naturalistes stricts, sortir de l'entre-soi et surtout aussi il y a cette vocation d'aller travailler avec les luttes féministes, avec les luttes antiracistes. Cette intersectionnalité, elle est très présente au sein des naturalistes des terres, Et c'est ce qui la rend aussi belle que difficile d'entrer pour des personnes. Voilà, donc ça, c'est long parfois le temps d'entrée.
Il y a aussi dans ce collectif, ce site internet qui permet aussi à des groupes de pouvoir s'inscrire.
Bah, l'idée du site, ce dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, ouais. C'est que chaque naturaliste qui est prêt à agir, à s'engager, peut lui-même s'inscrire sur ce site, naturaliste ou autre, peut donner, peut faire connaître ses savoir-faire éventuels, ce en quoi il peut aider. Ça peut être animer des balades nature, ça peut être faire de l'inventaire, ça peut être apporter une expertise juridique sur les questions d'espèces protégées ou autre. Voilà. Et ensuite, on est constitué maintenant en groupes locaux, donc c'est peut-être ça aussi que vous voyez là sur la carte. Il y a des typiquement ici dans la Drôme Ardèche, on a un groupe local, c'est notamment moi qui reçoit les demandes, même si on a une adresse mail que je ne vais pas souvent voir, donc il faut que j'aille vérifier là. Mais,
je la mettrai sur la page
okay,
de l'émission.
Très bien. Et voilà, et typiquement dans la Drôme Ardèche en ce moment, on est un peu impliqué sur le contournement de Saint-Péret à côté de Valence. Il y a des projets photovoltaïques aussi qui nous questionnent, sur lesquels qu'on surveille pour l'instant de loin, mais sur lesquels on va probablement s'impliquer davantage. Et voilà, et d'autres luttes, mais je les ai plus toutes en tête là.
L'avantage pour vous, enfin l'objectif avant tout pour vous, c'est la préservation de la biodiversité. Donc même les alternances en énergie peuvent être aussi néfastes à la nature. Et
ah
ça,
oui.
C'est aussi votre action.
Ah oui, c'est un vrai sujet, ça. En fait, on ne veut pas qu'il y ait de solution pour le climat qui soit antagoniste avec la biodiversité. Donc, évidemment qu'il faut des énergies renouvelables massivement, mais pas laisser les clés de la transition énergétique à des entreprises qui ont comme seul intérêt de gagner de l'argent. Et malheureusement, on a des complicités un peu naïves qui se forment dans tous les domaines associatifs, militants parfois, souvent par méconnaissance, mais de se dire, c'est un moindre mal, mais c'est un mal nécessaire. Détruisons des milieux naturels et des milieux agricoles de qualité pour mettre du photovoltaïque à perte de vue. Non, clairement, en fait, il faut sortir le porte-monnaie, mettre les sous et en mettre sur tous nos toits. Et en plus, ça permettra de diminuer les factures énergétiques de tous les habitants. L'urgence, elle est là, sauf qu'en fait, c'est absolument pas rentable pour les entreprises du photovoltaïque qui vont crier sur tous les toits qu'elles sont les premières écologistes de France après les chasseurs, bien sûr. Et du coup... Se trouvent être défendus et arrivent à porter leur message parce qu'elles ont évidemment des outils de communication extrêmement développés et vont porter le message qu'il y a des méchants naturalistes qui les empêchent d'œuvrer à la transition énergétique, alors que nous on dit mais déjà commençons par équiper tous les parkings de France comme la loi le prévoit, tous les parkings de plus de 1500 m², tous les toits pour lutter à la fois contre la précarité énergétique et contre les énergies fossiles, et puis après si jamais il en faut en pleine terre, on verra, mais commençons par là.
Est-ce que on entendait cette montée du fascisme reconnue pendant cet entretien, est-ce que pour vous il y a moyen d'être optimiste pour l'avenir, certainement pas pour le court terme, mais est-ce que vous pensez que à moyen ou long terme les choses se mettent en place?
D'un point de vue politique, c'est vrai que en ce moment c'est absolument déprimant. Je pense qu'il faut absolument que les gens qui ont quitté la politique ou qui n'ont jamais voulu y entrer par dégoût y entrent, mais à une échelle qui leur correspond, qui puisse être l'échelle locale. Je pense que l'échelle municipale, on a les élections municipales dans un an et demi, est probablement la plus appropriée pour avoir une prise réelle sur ce qu'on fait. Ça peut être du travail, ça peut être pénible, mais ça peut être aussi des aventures humaines magnifiques. Et en plus, il y a quand même beaucoup de décisions qui peuvent se prendre soit à l'échelle communale, soit intercommunale, et ne pas négliger les intercommunalités qui sont parfois des zones de prise de pouvoir un peu insidieux où se jouent où on envoie un élu ou deux élus, mais c'est là que se prennent beaucoup de décisions. Donc absolument réinvestir ces espaces-là. Et puis on a la chance ici, par exemple dans la Drôme, d'avoir une jeune députée écologiste, Marie Pochon, engagée. En fait, on a besoin de politique comme ça. Il faut que ça soit notre exemple, ce genre de personnes. Et il y en a pas mal, notamment chez les écologistes, mais pas que en France. Et en fait, faire de la politique autrement, ça me paraît essentiel. On peut pas laisser les clés de la politique à la droite conservatrice, à l'extrême droite. Là, c'est pas possible. Donc il faut que les dégoûtés reviennent prendre la politique aux dégoûtants.
Et dernière question, est-ce que selon vous, le public, malgré cette criminalisation de ces mouvements écologistes ou de protection de la nature, il y a un engouement du public qui s'amplifie?
C'est ambigu. Hein. C'est ambigu. On voit bien qu'il y a eu un moment, pendant 3-4 ans, quelques années, ou les médias. Bon, en tout cas, c'est un sujet qui est traité maintenant par les médias, donc du coup, le public s'en empare. Mais on a quand même un petit retour de bâton aussi de certains. Bah, disons que la com des la communication Amish a très bien fonctionné, hein, globalement. Et donc les écologistes comme des personnes qui nous qui sont tristes, qui veulent nous empêcher de jouir de la vie, qui veulent simplement des retours en arrière, elle a fonctionné. Alors qu'en fait, nous, les écologistes, on propose un avenir, on propose de la joie, on propose des choses extrêmement désirables, du lien social accru, de la nourriture de meilleure qualité, un environnement repeuplé. On propose extrêmement de choses, un nombre de choses joyeuses infini en fait. Mais on a une communication en face sur les grands médias bolloresques et autres qui est pas clairement qui nous fait perdre. Et là, il y a une vraie lutte qui doit s'engager contre ces médias. Enfin, il faut qu'on arrive à détruire l'Empire Bolloré. Et d'ailleurs, c'est le sens des actions des soulèvements de la Terre dans les prochains jours.
Maxime Zucca, la migration des oiseaux, ça vous a fait voyager, aller à la rencontre aussi d'autres ornithologues. Et est-ce que vous avez ressenti aussi cette quête pour une biodiversité préservée ?
Dans le monde, vous voulez dire ?
Oui.
Bien sûr, bien sûr. Bah, en tout cas, je pense que les humains partagent la quête de la beauté partout. Donc il suffit juste de la voir. Et ce qui est malheureux, c'est quand on la voit plus du tout, cette beauté, quand on est un peu replié sur soi, sur sa propre réussite, son petit nombril, qu'on n'arrive plus à s'ouvrir au monde. En fait, c'est ça la vraie tristesse qui nous est proposée. Donc je pense que les oiseaux migrateurs sont un vrai symbole de la beauté qui nous entoure et qu'en plus on peut voir jusqu'au cœur des villes. Et ça, c'est un truc super important, c'est que même dans Lyon, dans Marseille, dans Paris, dans les grandes villes, en levant la tête, on a la possibilité d'assister à cette liberté et à cette beauté du sauvage qui nous passe au-dessus plusieurs fois par an.
Merci beaucoup, Maxime Zucca.
Avec plaisir.
Bonne soirée.
I'm not afraid.